Nous allons garder un moment de silence, nous rasseoir et demeurer concentrés sur la personne du Christ. Je voudrais que chacun de nous, par le soutien, l'assistance du Saint-Esprit, puisse se mettre dans de bonnes dispositions de cœur pour pouvoir écouter la parole, la voix du Père au travers de sa parole. Ne laissons pas nos pensées vagabonder ça et là, mais essayons de nous concentrer, de nous focaliser sur notre Seigneur, sur celui qui nous rassemble dimanche après dimanche dans ces lieux pour nous faire du bien, pour nous bénir, pour nous remplir de toutes sortes de grâces. Seigneur, par nous-mêmes, nous sommes incapables de susciter, de créer en nous des dispositions des cœurs telles que nous pourrions recevoir ta parole. Naturellement parlant, Seigneur, nous sommes incapables de saisir la moindre de tes pensées. Car tout ce qui vient de toi, Seigneur, n'est que folie pour l'homme naturel. Même pour nous qui sommes sauvés, qui faisons partie de ton royaume, nous avons besoin à chaque moment, Seigneur, de ton soutien. Nous avons besoin de ton intervention. Nous avons besoin que ton esprit, Seigneur, nous aide, ravive notre intelligence. Suscite en nous, Seigneur, de bonnes dispositions, dispositions qui nous permettent, Seigneur, de te tendre une oreille attentive et de recevoir ta pensée. Oh, merci de nous parler ce matin. Mais avant cela, Seigneur, je voudrais t'exprimer ma reconnaissance pour cette opportunité merveilleuse que tu nous as accordée d'entrer dans ta présence, Seigneur, avec louange, avec adoration, pour cette occasion qui a été la nôtre, de pouvoir t'exprimer nos sentiments de joie, nos sentiments de reconnaissance, car tu es tout pour nous, Seigneur. Oh, tu es celui qui veille, celui qui nous entoure par devant, par derrière, celui qui combat pour nous, celui qui fait tout pour que, Seigneur, ton règne devienne une réalité palpable dans nos vies de tous les jours. Oh, nous te demandons de nous parler, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, ô Dieu, d'ôter tout obstacle à ta parole. Que nos cœurs soient disposés à recevoir ta pensée. Que nos cœurs s'ouvrent à l'action de ton esprit au travers de ta parole. En même temps, nous te prions, Seigneur, d'aider ton serviteur à proclamer simplement ta parole, à donner simplement à ton peuple ce qui vient de toi. Merci, Jésus, de nous faire du bien en cet instant, de nous amener là où tu es, devant ton trône, et de nous travailler par ton esprit, au travers de ta parole. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Bien. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Une fois de plus, nous donne l'occasion de pouvoir méditer sa parole. Et ce matin, je voudrais introduire notre thème de l'année, à savoir, montons à la montagne, apportons du bois et bâtissons la maison de Dieu. Et le prophète qui nous a inspiré ce thème n'est autre que le prophète Agée. Nous sommes donc dans ce petit prophète, petit non pas de par son ministère, pas du tout, petit parce que c'est un livre qui n'a que 2 chapitres. Donc c'est l'avant, le 3e prophète avant de clore l'ancienne alliance et de commencer avec le Nouveau Testament. Donc nous sommes dans Agée chapitre 1er, nous allons lire à partir du 1er verset jusqu'au verset 12. La deuxième année du roi Darius, le sixième mois, le premier jour du mois, la parole du Seigneur fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agé à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Yehotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle le Seigneur des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps où la maison du Seigneur doit être rebâtie. Alors la parole de l'Éternel leur fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agé en ces mots, ou en ces termes. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est en ruine? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Réfléchissez à votre conduite. Vous avez beaucoup semé et vous rapportez peu. Vous mangez sans être rassasié. Vous buvez, mais pas à votre sou. Vous êtes vêtu sans avoir chaud. Le salarié reçoit son salaire dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Réfléchissez à votre conduite. Il y a là une insistance de la part du Seigneur. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'y prendrai plaisir, ou d'autres versions disent, je l'agréerai et je m'en serai glorifié, dit le Seigneur. Vous comptiez sur beaucoup et voici que vous avez eu peu. Vous l'avez rapporté à la maison, mais je soufflais dessus. À cause de quoi ? Oracle du Seigneur des armées, à cause de ma maison qui est en ruine, tandis que vous, vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi le ciel vous a retenu la rosée, et la terre a retenu ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile, sur ce que produit le sol, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Yehotsadak, le souverain sacrificateur et tout le reste du peuple, obéirent à la voix de l'Éternel, leur Dieu, d'après les paroles du prophète Agé, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu, et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel, devant le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Montons. Apportons et bâtissons, ou reconstruisons, ou rebâtissons. Je l'ai déjà annoncé, et comme vous le savez, le thème de cette année, la pensée du Seigneur qui va nous accompagner tout au long de 2014, est donc tirée de ce livre, du verset 8 de ce chapitre 1er. Montez à la montagne, apportez du bois, et puis ensuite, bâtir la maison de Dieu. C'est un thème qui est cher, frères et sœurs, au cœur du Seigneur. Car s'il a une entreprise que le Seigneur est en train d'accomplir depuis son ascension, c'est bien la construction de son Église. Il est préoccupé par son Église. Il est préoccupé par l'avancement de son règne. Il est préoccupé, mes amis, par l'épanouissement de son œuvre. Car il n'y a pas d'autre solution pour l'homme d'échapper à la malédiction du péché, d'échapper au jugement dernier, à la condamnation qui pèse sur l'humanité déchue, que de venir à Christ, d'entrer dans son Église et de faire partie de sa maison. C'est donc la vision pour cette nouvelle année 2014. Et par rapport à cette vision, nous voyons tout de suite, j'ai déjà eu l'occasion de le souligner, qu'il y a là au cœur de cette vision trois verbes d'action. Monter, apporter et bâtir. Amen. Trois verbes d'action. Donc notre vision va s'articuler tout au long de cette année autour de ce trois verbes de mouvement, trois verbes que nous devrions conjuguer, non pas au futur, mais au présent permanent. Pourquoi trois verbes d'action. Pourquoi trois verbes de mouvement? Eh bien, tout simplement parce que le Seigneur attend de chacun de nous que nous soyons plus actifs que nous l'avons été l'année dernière. Que nous soyons de plus en plus en mouvement pour son œuvre. Son œuvre de salut. Regardez tout autour de nous. Beaucoup d'hommes et de femmes se perdent. Beaucoup d'hommes et de femmes sont dans l'égarement. Beaucoup d'hommes et de femmes ne savent plus quoi faire. Le monde ne cesse de connaître des crises et des crises. Et comment apporter la solution à ces gens-là si son Église ne se met pas en mouvement? Si vous et moi, qui appartenons à son royaume, qui sommes ses enfants, mes amis, nous ne nous levons pas pour pouvoir être actifs, oui, dans cette œuvre de salut, dans cette œuvre de restauration des vies usées par le péché. Combien de gens sont à la recherche de quelque chose qui va leur apporter rafraîchissement à leur vie? Combien de vies sont détruites par le péché, par l'idolâtrie, par l'impudicité, par l'adultère, par le vol, par la tromperie, par le mensonge, par toutes sortes de vices? Et l'antidote à tout cela, mes amis, c'est le Seigneur et le Seigneur seul. Il voudrait que nous soyons en mouvement, que nous soyons plus actifs par rapport à tous ceux qui sont sous l'emprise démoniaque, ceux qui cherchent la solution qui ne la trouvent pas auprès des féticheurs, auprès des marabouts, auprès de toutes sortes de diseurs de bonne aventure. Oui, Dieu veut, mes amis, que tout au long de cette année, nous nous mettions à conjuguer ces trois verbes au présent. Nous avons là, chers frères et sœurs, une opportunité extraordinaire d'être davantage actifs pour Dieu, d'être de plus en plus en mouvement, plus en mouvement que nous l'avons été hier, plus en mouvement qu'il y a 2 ans, qu'il y a 3 ans. Actifs envers Dieu, actifs pour Dieu, actifs avec Dieu. Amen. Voilà donc la vision, la pensée qui va nous accompagner. Et la finalité de tout cela, eh bien, c'est quoi? C'est bâtir, reconstruire la maison de Dieu. C'est édifier la maison de Dieu. C'est donner l'occasion au Seigneur de pouvoir accomplir ce qui lui tient à cœur. Il a dit, il nous le répète encore aujourd'hui, « Je bâtirai mon Église ». Il est à l'œuvre, mes amis, un peu partout dans le monde. Et c'est ce qui le préoccupe le plus. Mais avant d'aller plus loin, et afin de nous permettre à mieux apprécier le message que le prophète Agé a proclamé aux gens de sa génération, à ceux qui étaient revenus de la captivité, je voudrais regarder un tout petit peu ensemble avec vous le contexte dans lequel cet homme se levait de la part du Seigneur et a proclamé ce message. Ce message qui se résume à ces trois verbes, monter, apporter et bâtir. Nous sommes à l'époque du retour de l'exil, du retour de la déportation à Babylone. Comme vous le savez, 70 ans, 70 ans auparavant, le royaume de Juda était tombé entre les mains de Nebuchadnezzar, le roi babylonien. Et celui-ci, après avoir détruit la ville de Jérusalem, après avoir détruit le temple et après l'avoir pillé, eh bien, il avait amené la majorité du peuple de Dieu à Babel ou à Babylone. Ces gens vont rester là-bas pendant 70 ans. Et au bout de 70 ans, Dieu va accomplir un miracle comme il avait annoncé par la voix de son prophète Jérémie. Dieu va susciter un roi, Cyrus. C'est donc le roi perse qui va faire tomber l'empire babylonien et qui va permettre au peuple de Dieu de retourner dans sa terre. Et le roi Darius, dont il est question ici, est un des descendants, donc de Cyrus le Grand, celui qui avait bâti ces grands empires. Peut-être que vous ne le savez pas, l'araméen que les Juifs parlaient à l'époque du Christ était la langue de l'empire perse. À Babylone, on parlait araméen. Donc avec les 70 ans de déportation et de captivité, le peuple avait fini par oublier l'usage de l'hébreu. Et quand ils reviennent, eh bien, il n'y a que les anciens qui maîtrisaient encore la loi de Dieu en hébreu, mais sinon tout le peuple parlait araméen, et le Seigneur a parlé araméen. Encore aujourd'hui, dans cette région, il y a certains peuples, certaines tribus, entre guillemets, qui parlent encore cette langue. Donc, nous sommes donc à cette époque du retour de l'exil, du retour de la déportation. Et quand ils reviennent, la première chose qu'ils vont faire, eh bien, c'est de rétablir l'autel de Dieu, et puis ensuite de rebâtir sa maison. Ils ont bien commencé, mais malheureusement, les gens du pays, eh bien, vont tout faire pour les décourager. Il va y avoir des intrigues, de l'opposition, des menaces, et tout cela, eh bien, va conduire le peuple de Dieu à se relâcher dans ce travail de reconstruction. Et petit à petit, eh bien, la négligence les gagne. Petit à petit, le zèle qu'ils avaient pour la maison de Dieu s'effrite ou s'amenuise. Petit à petit, la ferveur, l'empressement qu'ils avaient au départ pour la reconstruction de la maison de Dieu, eh bien, s'évapore. Et entre-temps, beaucoup d'entre eux, eh bien, prospéraient matériellement parlant. Leurs affaires allaient de l'avant. Ils construisaient des beaux palaces, des belles maisons, etc. Tout cela, eh bien, dans l'indifférence presque généralisée vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. Mais cela va avoir des conséquences, comme nous l'avons lu. Ce manque d'intérêt, cette indifférence par rapport à l'œuvre de Dieu, eh bien, va avoir des conséquences sur le pays et sur le peuple. Le peuple va connaître la sécheresse. Il va y avoir pénurie de récoltes, l'insatisfaction, etc. Donc, voilà un tout petit peu le contexte dans lequel le Seigneur a suscité cet homme et lui a confié cette mission d'interpeller son peuple quant à la nécessité de privilégier la construction de sa maison. Alléluia. Mes amis, depuis toujours, depuis la chute de l'homme, jusqu'à nos jours, Dieu est préoccupé par la construction de son règne ici sur terre. Dieu est à l'œuvre pour sauver le perdu. Dieu voudrait que chacun de nous réalise le bien fondé, la nécessité de pouvoir privilégier d'abord et avant tout son œuvre avant nos besoins, quels qu'ils soient. Et par rapport à l'Église, mes amis, ce message est encore d'actualité. Nous pouvons tout à fait établir un parallèle entre ce que Dieu avait demandé à son peuple en ces temps-là et nous qui vivons aujourd'hui au XXIe siècle. Car si à l'époque, c'était construire un temple visible, un temple physique, aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, le Seigneur est en train de bâtir son œuvre sur le plan spirituel. Et nous le verrons. Cette construction est d'abord subjective, personnelle, mais aussi communautaire. Le Seigneur a commencé par interpeller ces gens, par les amener à réfléchir à leur conduite. Il leur demande de réfléchir, de mener une réflexion sur tout ce qui leur arrivait, d'examiner, d'étudier pourquoi rien n'allait, alors même qu'ils continuaient à invoquer le nom de l'Éternel. 5 fois, nous trouvons ce verbe réfléchir au mode impératif. 5 fois, sur 2 petits chapitres, 5 fois. Dieu dit, d'abord, 2 fois, réfléchissez à votre conduite. Ce sont les versets que nous avons lus. Et puis, les 3 autres fois, nous le retrouvons dans le chapitre 2, où il est question de réfléchir maintenant, de réfléchir donc, et d'y réfléchir. Dieu commence par amener les gens à réfléchir à tout ce qui leur arrivait. Mes amis, je voudrais souligner une chose. C'est que la marche avec le Seigneur est une vie dans laquelle la réflexion occupe une place permanente. Marcher avec Jésus ne veut pas dire suicider sa raison. Marcher avec Jésus ne veut pas dire qu'on ne doit plus réfléchir. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec un christianisme axé sur le sensationnel, axé sur l'émotionnel. Les gens ne réfléchissent plus. Mais Dieu voudrait que nous apprenions à utiliser notre intelligence. Car la raison que nous avons n'est pas la conséquence du péché, pas du tout. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous avons donc une intelligence. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous devons apprendre à réfléchir. Nous ne sommes qu'au début de l'année. Il est donc important que nous menions une réflexion sur notre propre vie. En venant ici à la borne dimanche après dimanche, nous ne débranchons pas notre cerveau. La foi ne veut pas dire sacrifier la raison sur l'autel, je ne sais de comment, l'autel de l'athéisme. Non. La vraie foi, elle est rationnelle. Alléluia. Nous savons pourquoi nous suivons Jésus. Nous savons pourquoi nous défendons le projet intelligent par rapport à la création. Nous rejetons tout ce qui vient de l'évolutionnisme. Non pas par fanatisme, parce que nous avons des arguments. Alléluia. Nous avons des arguments forts. Et pour arriver à argumenter, il faut solliciter sa raison. Réfléchissez à votre conduite. Alléluia. Voilà la première chose que le Seigneur fait lorsqu'il s'adresse à son peuple. Il leur dit, voyez le malheur qui vous arrive. Voyez tout cela. Et que cela vous amène à la réflexion. Nous ne sommes qu'au mois de janvier. C'est le deuxième dimanche de ce mois, mes amis. Nous avons encore devant nous toute une année. N'est-ce pas? Eh bien, prenons à partir d'aujourd'hui à exercer notre réflexion. À réfléchir. Voyez-vous? Et à rejeter tout ce qui chercherait à nous amener dans une sorte de christianisme où la raison serait exclue. Et le résultat, c'est que les gens aujourd'hui se laissent facilement manipuler par des prophéties, manipuler par des faux enseignements. C'est parce que les gens ne prennent pas le soin de réfléchir à ce qu'on leur dit, de réfléchir à l'enseignement qu'on leur donne, de réfléchir sur la personne qui leur apporte l'enseignement. Voyez-vous, la réflexion a sa place, mes amis, dans notre relation avec le Seigneur. Nous ne pouvons pas aller loin si nous n'apprenons pas à réfléchir. Évidemment, en tant qu'enfant de Dieu, toute cette réflexion doit être soumise à la lumière du Christ, alléluia. Doit être soumise à l'Esprit de Dieu. Mais il n'en demeure pas moins que nous sommes appelés à réfléchir. À réfléchir et à réfléchir encore. La première réflexion, c'est par rapport à notre conduite, à notre comportement, à nos attitudes envers l'œuvre de Dieu. Ça a été le cas pour le Juif revenu de la captivité. C'est encore le cas aujourd'hui, mes amis. Si chacun de nous pouvait rentrer en lui-même, eh bien, il comprendrait tout de suite la place que l'œuvre de Dieu occupe dans sa vie. La place que l'œuvre de Dieu occupe autour de nous et parmi nous. C'est donc une interpellation d'une partie de la communauté qui avait été évidemment bénie, qui avait vu leurs affaires prospérer, mais qui malheureusement était tombée dans l'avarice, dans l'égoïsme, et avait fini par développer un manque d'intérêt pour la maison de Dieu. Et c'est là que le Seigneur les interpelle et qui leur demande de réfléchir. De réfléchir à leur conduite. Tout est éphémère, tout est passager, mes amis. Nous devrions apprendre à investir dans le royaume des cieux. Alléluia. Nous devrions privilégier le royaume de Dieu. Car ce que nous donnons à Dieu, nous ne le perdons jamais, mes amis. Ce que nous faisons pour Dieu, eh bien, nous le retrouverons tôt ou tard. Car la Bible nous dit que lorsque le juste s'en va, ses œuvres le suivent. Mais ce que nous faisons pour le monde, ce que nous utilisons pour nous-mêmes, nous le perdons. Et lorsque le moment arrive de quitter cette terre, de quitter ce corps de chair et de s'en aller, eh bien nous laissons tout derrière nous. Nous nous en allons main vide. Voyez-vous? Chacun pense à son propre, à son bien-être. Chacun ne se soucie guère de l'œuvre de Dieu. La priorité est placée sur ses propres besoins. Eh bien le moment est arrivé que chacun de nous puisse réfléchir. Qu'il puisse exercer sa raison, qu'il regarde quelle est la place que l'œuvre de Dieu occupe dans sa vie. Aujourd'hui, ce n'est qu'une introduction. Je reviendrai davantage sur tout cela dans les semaines à venir. La deuxième réflexion, eh bien, c'est un appel à réfléchir au manque, à l'improductivité, à la déception qui caractérise notre vie. Alors que nous sommes avec le Seigneur, alors qu'il nous arrive de semer beaucoup, la Bible nous dit que nous moissonnons peu. Nous nous cassons en quatre pour faire ceci, pour faire cela. Mais en fin de compte, nous récoltons peu de choses. Comment expliquer cette improductivité? Comment expliquer ce peu de récolte? Eh bien, le Seigneur nous demande de réfléchir à notre conduite. Nous sommes vêtus, mais sans avoir chaud. Comment expliquer cela? Nous recevons notre salaire, mais la Bible nous dit dans un sac percé. C'est-à-dire, aussitôt que nous avons le salaire, tout s'évapore. Pourquoi? Eh bien, la réponse est là. Réfléchissez, réfléchissons à notre conduite. Plutôt que de vouloir trouver un bouc émissaire, de vouloir trouver le responsable du manque de bénédiction dans notre vie, nous devrions réfléchir à notre propre conduite. Et ne pas courir ça et là à la recherche d'une prophétie qui nous dirait pourquoi les écluses des cieux restent fermées dans nos vies. Courir à la recherche d'une réponse auprès je ne sais de quel pasteur. Mais la Bible est claire. Nous devons apprendre à réfléchir. Et on ne peut pas réfléchir si on ne prend pas le temps de s'asseoir et d'examiner très objectivement sa vie. Le Seigneur nous appelle à ça. Voyez-vous? Et c'est aussi spirituel, hein? Car nous avons une mauvaise compréhension de la spiritualité. Nous pensons que est spirituel tout ce qui concerne le jeûne, tout ce qui concerne la prière. C'est vrai, le jeûne et la prière sont donc des facteurs importants dans notre relation avec le Seigneur. Nous pensons est spirituel tout ce qui touche d'une manière ou d'une autre à l'œuvre de Dieu. Mais prendre le temps de réfléchir à sa propre vie, prendre le temps de réfléchir à la relation que nous avons avec Dieu est aussi spirituelle. Amen. Nous devons réfléchir. Nous devons développer cette capacité, mes amis, à mener une analyse, à nous examiner très objectivement pour arriver à voir exactement où se situe le problème. Et le trois derniers verbes, réfléchir, eh bien, vont abonder dans le même sens, mais avec un bonus, c'est que ça se termine par une promesse où le Seigneur dit, je donnerai la bénédiction lorsque tout cela sera fait. Alléluia. Gloire à Dieu. La bénédiction lorsque le peuple aura conjugué ces trois verbes, lorsque le peuple aura pris le soin de monter, non pas les mains vides, mais de monter avec du bois. Lorsque le peuple arrivé au sommet se mettra à bâtir, Dieu promet qu'il donnera sa bénédiction, qu'il enlèvera la malédiction, qu'il menacera celui qui détruit, qu'il finira par nous donner une bourse qui ne soit pas trouée, qui retienne notre salaire. Amen. À partir de ce jour, dit-il, je donnerai la bénédiction. Nous ne pouvons pas espérer, mes amis, moissonner en aval si nous ne semons pas en amont. Et en amont, il y a d'abord la réflexion. Nous devons voir où nous en sommes avec notre Dieu. Marcher avec Dieu, c'est d'abord une question personnelle, avant d'être une question communautaire. Alléluia. Il y a des bénédictions que le Seigneur répand sur une communauté. Par exemple, les dons spirituels. C'est pour l'édification du corps du Christ, oui ou non? Dieu ne peut les manifester que s'il y a une communauté. Il ne peut pas donner le don pour quelqu'un qui vivrait en marge de l'Église. Pas du tout. Il édifierait qui? C'est lorsque la communauté est là, pour édifier la communauté, pour amener les membres de la communauté à grandir dans leur marche avec le Seigneur, eh bien qu'il va donner les dons spirituels. Mais il y a aussi des bénédictions personnelles. Donc, nous devrions apprendre à réfléchir à notre conduite. Et cette réflexion doit absolument déboucher sur une décision qui est celle d'agir, comme à l'époque d'agir. Alléluia. Ils ont réfléchi à leur conduite. Ils se sont rendus compte que si la malédiction planait sur le pays, s'il n'y avait pas suffisamment de pluie, moins de récoltes alors qu'ils semaient beaucoup, eh bien cela était dû au fait qu'ils avaient tout simplement délaissé l'œuvre de Dieu, qu'ils étaient devenus indifférents. Ils n'ont pas cherché à diaboliser un adversaire extérieur en disant « Oui, mais c'est parce qu'il y a encore des Samaritains sur cette terre, parce que cette terre a été souillée par des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, le Dieu d'Israël, pas du tout. » Le Seigneur les a mis devant leur responsabilité. C'était à eux de réfléchir et de réfléchir encore. Alors comment agir? Puisque toute réflexion dans ce cadre-là doit déboucher absolument sur une décision. La réflexion en elle-même n'est pas un but en soi. On ne réfléchit pas pour réfléchir, mais on réfléchit pour comprendre et puis ensuite pour passer à l'action. Alléluia. Comment agir après avoir réfléchi, après avoir mis sa vie devant soi et l'avoir analysée très objectivement? Eh bien, on passe à l'action. Comment? Eh bien, en montant à la montagne, en apportant du bois et en bâtissant la maison de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Commençons par le premier verbe. Tout ceci, c'était pour nous situer un tout petit peu le contexte et mettre l'accent sur le verbe réfléchir. C'est votre droit de réfléchir à tout ce que je vous prêche. Voyez-vous? Ne marchez pas avec la foi du charbonnier. Voyez-vous? Oh, on a dit, ben c'est comme ça, j'y vais. Non. Réfléchissez. Examinez comme les chrétiens de Béret. Si tout ce qu'on vous enseigne, sur tout ce que nous prêchons, si tout cela est conforme à la parole de Dieu. Comment voulez-vous, mes amis, discerner cela si vous ne réfléchissez pas? Donc, la réflexion a toute sa place tout au long de cette année 2014. Alléluia. Nous devrions réfléchir, évidemment, avec lui. Nous devrions apprendre à nous asseoir et à examiner, à analyser notre vie. Gloire à Dieu. Montez à la montagne. Tel est donc le premier verbe que nous devrions et que nous devons conjuguer tout au long de cette année. Vous le savez, monter, eh bien, c'est prendre de la hauteur. C'est partir d'un point bas vers un point élevé. C'est se transporter dans un lieu élevé. C'est donc prendre de l'altitude. Alléluia. On quitte un point pour un autre point sur le plan vertical. Alléluia. Donc, c'est un verbe d'action. C'est un verbe de mouvement, comme je l'ai souligné. Et le Seigneur nous demande, effectivement, tout au long de cette année, il nous demande de monter, d'escalader la montagne de Dieu. Avec ce verbe, l'accent est mis sur l'être. Alléluia. L'accent est mis sur la personne, sur l'être, sur ce que nous sommes et ce que nous sommes appelés à devenir. Tout commence avec l'homme et tout se termine avec l'homme, mes amis. Pour Dieu, l'être vaut plus que l'agir. L'être vaut plus que le faire. Dans une société rongée par le consumérisme, une société de consommation, eh bien l'accent est souvent mis sur le rendement, sur la productivité, oui ou non? On évalue les gens en fonction de leur productivité, c'est vrai. Mais en poussant trop loin cette notion de rendement, cette notion de productivité, eh bien, on a fini par mettre beaucoup d'accent sur l'agir, sur le faire, et ce, au détriment de l'être. Mais ce qui intéresse Dieu, c'est d'abord l'homme au cœur de l'action. Alléluia. C'est d'abord l'homme, et encore l'homme. Dieu n'a pas besoin d'apporter du bois lorsqu'un cœur est impur. Non. Il veut d'abord que tu apportes ton cœur. Par après, tu apporteras le bois. Alléluia. C'est pourquoi, mes amis, en conjuguant ces verbes, nous allons mettre beaucoup d'accent sur l'être. Afin que chacun de nous comprenne que lorsqu'il s'agit d'escalader la montagne de Dieu,
eh bien, il faudra le faire en marchant dans la sanctification et non pas en traînant des casseroles remplies de toutes sortes d'immondices moraux, de toutes sortes de pourritures. Nous ne pourrions pas aller loin, mes amis. À peine quelques mètres, nous serions tout de suite essoufflés, fatigués. Il faudra alors nous débarrasser de ces choses. C'est donc le premier verbe, et je dirais le plus important, car c'est le verbe qui va amener Dieu à commencer cette œuvre de reconstruction dans chacune de nos vies. Avant de rénover ce temple, mes amis, avant de l'agrandir, Dieu voudrait rebâtir son œuvre dans ta vie. Et ceci est beaucoup plus important. Nous voulons voir à la borne, tout au long de cette année, des hommes et des femmes qui sont constamment entre les mains du Seigneur, entre les mains du divin potier. Monter, c'est l'être. Oui, l'être vaut plus que le faire. Ce que nous sommes vaut plus que ce que nous faisons. Dieu n'a pas besoin de ma dîme, mes amis, dès lors que ma vie est en abomination à ses yeux. Ce qu'il attend d'abord de moi, eh bien, c'est que mon cœur soit rempli de la crainte de son nom. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous devons d'abord nous approcher, et j'insisterai là-dessus, nous approcher de Dieu avant de lui faire approcher l'offrande. Voilà le principe. Gloire à Dieu. Nous approcher de lui, et c'est seulement après lui faire approcher l'offrande. Car ce qui est important pour lui, c'est d'abord ce que nous sommes. Amen. Nous allons travailler l'être, mes amis. Nous allons mettre l'accent sur la sanctification. Nous allons mettre l'accent sur notre cœur. Que Dieu débarrasse ses cœurs de tout sentiment négatif, de tout sentiment résultat du mal, de la présence du péché dans nos vies. Monter. Comment monter, mes amis, si lui ne nous donne pas cette capacité d'escalader sa montagne? Comment bâtir s'il ne nous donne pas les ressources, aussi bien morales, spirituelles que matérielles? C'est lui seul qui peut nous donner ces ressources, qui peut nous donner les moyens pour pouvoir bâtir sa maison. Mais le premier bois qu'il faudra apporter, c'est notre cœur. Alléluia. Notre cœur. Oh, garde ton cœur plus que toute autre chose. Il va être question du cœur, mes amis, car c'est ce qui détermine ce que nous sommes. La Bible nous dit que nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. Quel privilège! Nous ne sommes pas comme le reste de l'humanité. Non, nous sommes des gens à part. Nous sommes des gens singuliers. Le Dieu des cieux habite nos vies. Le Saint-Esprit habite en nous. Et sans le Saint-Esprit, pas moyen, mes amis, de monter. Nous aurions peut-être quelque chose, mais ce qu'il nous demande, ce n'est pas d'avoir la chose du bois et puis de lui jeter. Seigneur, tiens, oups! Ça n'ira pas plus loin, mes amis. Pas du tout. C'est qu'il attend ce que nous montions. Or, comment monter si lui n'est pas avec nous? C'est le Saint-Esprit. C'est comme ça que ce peuple a commencé et a terminé cette œuvre en conjuguant ces trois verbes. Il nous est dit dans au chapitre 1, verset 14, que le Seigneur éveilla l'esprit de Zorobabel. Il éveilla l'esprit de Josué. Il éveilla l'esprit du reste du peuple. Et résultat, ils vinrent se mettre à l'œuvre dans la maison de Dieu. Alléluia. Ils se remirent au travail. C'est le Saint-Esprit qui leur a donné cette capacité. Car il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut réveiller l'esprit de l'homme. Sans le Saint-Esprit, mes amis, aucune possibilité de bâtir la maison de Dieu. Le Saint-Esprit travaille en nous et au travers de nous. Le Saint-Esprit, lui seul, peut nous doter les capacités dont nous avons besoin pour conjuguer ce verbe. Mes amis, nous ne pouvons amorcer une quelconque montée
vers le sommet de la montagne de Dieu si le Saint-Esprit n'est pas avec nous. Si le Saint-Esprit ne travaille pas avec nous. Si le Saint-Esprit n'est pas à l'aise avec nous. Si la première église a pu conjuguer ces trois verbes, c'est parce que dès le départ, ils avaient réalisé la nécessité de monter dans la chambre haute. À partir de ce moment-là, tout était devenu possible. Ils pouvaient apporter du bois, puisqu'ils s'étaient déjà eux-mêmes montés et bâtir ainsi la maison de Dieu. L'Esprit et l'Esprit encore. Au même gouverneur Zorobabel, avant de terminer, le Seigneur a dit, par la bouche du prophète Zacharie, qui vient juste après Agée, il a dit ceci, ce verset que vous connaissez tous, Zacharie 4, verset 6, « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais bien par mon esprit, dit le Seigneur. » Mes amis, nous ne pouvons pas conjuguer ce verbe seul. Nous avons besoin du Saint-Esprit qui nous aide. Et le Saint-Esprit ne peut pas nous aider si nous ne lui donnons pas l'occasion d'interagir avec nous. Le Saint-Esprit ne peut pas nous aider si notre vie est en abomination à ses yeux. D'où la nécessité, tout au long de cette année, de travailler notre proximité avec lui, de travailler notre intimité avec lui, mes amis, par une vie d'engagement, une vie d'abnégation, une vie d'obéissance à la parole de Dieu. Car il n'y a rien que le Saint-Esprit ne puisse faire sans qu'il ne le fasse par et au travers de sa parole. Alléluia. Nous l'avons vu avec Philippe. C'était un homme rempli du Saint-Esprit, mais aussi un homme rempli de la parole de Dieu. Grâce à l'Esprit de Dieu, Zorobabel, Josué et tout le peuple, eh bien, ils sont montés. Ils ont escaladé la montagne de Dieu. Ils ont amené tout ce dont ils avaient besoin et se sont mis à bâtir. Et ils ont fini par bâtir ce temple. Le temple verra le jour et le peuple, eh bien, bénéficiera de nouveau. La grâce de Dieu recevra de nouveau la bénédiction. Mes amis, nous devons monter. Et en parlant du verbe monter, le Seigneur met l'accent sur l'être. Ne te précipite pas à porter quoi que ce soit. Regarde d'abord l'état de ton cœur. Car ce que Dieu attend de toi, c'est que tu t'amènes toi-même. Tu t'apportes toi-même. Alléluia. Quand le panier des offrandes du Seigneur passe, eh bien que tu ne mettes pas n'importe quoi, mais que tu mettes d'abord ton cœur. Car c'est ce qu'il attend de toi. Oui, nous allons conjuguer ce verbe et nous prendrons du temps. Car monter, c'est mettre l'accent sur l'être. Et Dieu voudrait travailler chacun de nous avec son esprit et par son esprit. Amen. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Je voudrais, en introduction à ce message, demandez à chacun de nous de regarder à sa propre vie. Et de réfléchir. Où en es-tu dans ta marche avec Dieu? T'es-tu retrouvé dans le verdict de ces exilés de retour? Tu reçois un salaire, mais aussitôt reçu, tout part. Au bout de 2 semaines, tu n'as plus rien. Tu te demandes pourquoi, alors que tu avais reçu un salaire conséquent. Tu sèmes, mais tu moissonnes peu. Tu vas puiser de l'eau, alors que le puits est profond. Tu ne reviens qu'avec quelques gouttes. Réfléchis. Quelle est ton attitude vis-à-vis de l'œuvre de Dieu dans ta vie? Quelle est ton attitude vis-à-vis de l'œuvre de Dieu au sein de notre Église? Réfléchis, mon frère, car Dieu voudrait te faire escalader sa montagne et t'amener jusqu'à son sommet. Car c'est là qu'on rencontre Dieu. C'est là que nous expérimentons les bénédictions les plus extraordinaires. Prends la décision de conjuguer ce verbe désormais en laissant Dieu travailler ton cœur. S'il met le doigt sur une habitude mauvaise, s'il met le doigt sur un péché, s'il met le doigt sur quelque chose qui n'est pas bien, ne cherche pas d'excuses. Jette-toi à ses pieds, dis-lui, Seigneur, je reconnais, je te demande pardon, et en même temps je te prie de m'aider à ne plus faire preuve de cette, à ne plus laisser cette faiblesse se manifester dans ma vie. Seigneur, nous nous tenons devant toi, chacun pour sa part, avec cette parole. Tu nous demandes, Seigneur, de monter. Mais comment monter lorsque nous traînons toutes sortes de choses avec nous? Lorsque nous sommes chargés par toutes sortes de choses qui ne te glorifient point. Oh Dieu, aide-nous à réaliser véritablement l'état de notre âme, à nous débarrasser de tout ce qui n'est pas ta gloire, à te demander pardon et à déposer nos vies à tes pieds, afin que toi, le divin potier, tu puisses les modeler à ta ressemblance. Tu puisses enlever ce qui est enlevé. Tu puisses briser ce qui a brisé, Seigneur. Travaille nos cœurs afin que nous soyons dignes de toi, Seigneur, et capables de pouvoir monter. Oh, merci pour ta parole. Merci de nous aider, Seigneur, à conjuguer ce premier verbe. Et en même temps, alors que nous sommes devant toi, nous voulons te demander, Seigneur, de poser ta main sur ces offrandes qui sont aussi un moyen pour nous de te manifester notre amour, notre reconnaissance, un moyen, Seigneur, de t'apporter ce que nous avons préparé. Bénis ces offrandes et bénis chacun de nous qui donnons, Seigneur, pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.